Mesdames et Messieurs, bonsoir. Avant de procéder à l'appel, passez à la fin du CM à venir signer tout ce qui est dossier et tout ce qui est papier, ainsi que pour tout ce qui est en procuration, de signer à la place des absents. Et la réunion donc, est réalisée dans les conditions conformes aux règles de sanitaire en vigueur, et je demanderai au public de partir à la personne qui est dans le public, de quitter la salle vers les 18h55, puisque le couvre-feu est à partir de 19h. Je vous en remercie. Élection du... il appelle en premier. Ayosa Fabrice. Estella Amaya Rios. Absente. Pouvoir, M. Jean-Louis Grappet. Bonifaci Sylvie.
Présente.
M. Bouc Philippe, absent, procuration à Mme Césarine Sauvadon. Mme Caligari, Virginie.
Présente.
M. Carpentras, Henri.
Présente.
Mme Côté-Soto, Sophie.
Présente.
Mme Cotel, Laurence.
Présente.
M. Defesse, Jean-Marc, absent, pouvoir Mme Aline Solillac. M. Fogel, Henri, Simon. Mme Fraisse, Alexandrine.
Présente.
M. Grappin, Jean-Louis.
Présente.
Monsieur Garrigos,
oui, présent. Présent.
Madame Hermitan Tamara.
Présent.
Madame Camarade Isabelle, absente pouvoir à Madame Sandrine Sauvade. Monsieur Lambertin Jean-Pierre.
Présent.
Monsieur Miserere Gérard.
Présent.
Monsieur Morel Stéphane. Absent pouvoir à Monsieur Gérard Miserere. Monsieur Barré Franck.
Présent.
Monsieur Robin Christophe.
Présent.
Monsieur Sardou Nicolas.
Présent.
Madame Sauvade Sandrine.
Présent.
Madame Sauvadon Césarine.
Présent.
Madame Zbati Samira.
Présent.
Madame Solia Kaline.
Présent.
Madame Souleton Marie.
Présent.
Et Madame Zandrini Mercedes.
Présent.
Avec le secrétaire de séance, je propose Monsieur Franck Paré. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, je vous remercie. Deuxième question, délibération, approbation du procès verbal de la séance du 12 mars. Y a-t-il des questions? Monsieur Grappin.
Juste une observation par rapport à la question qui visait l'approbation du PV précédent. Et à tout début de mon intervention, vous avez mentionné, juste relevé au travers, hein, mes propos qui sont pour le moins erronés, ce n'est pas mes propos que je disais, mais c'est bien des propos, je crois que dans la bande que j'ai pu l'écouter, c'est bien des figures. Je ne suis nullement en contraire à votre observation.
Je passe au vote, qui s'abstient? Madame Armaillot aussi?
Oui,
oui,
c'est pour
l'évaluation. Donc, l'équipe a géré ensemble, la liste a géré ensemble pour la value. 4 abstentions. Qui est contre? Vote à la majorité, je vous remercie. Approbation, troisième question, approbation du code de gestion 2020, Monsieur Garrigos Jean-Marc.
Merci, Monsieur le maire. Je sais pas si ça marche.
Merci Monsieur le maire. Donc le compte de gestion, c'est donc le compte du comptable. Donc je vais vous lire le rapport. Donc il précise que ce compte de gestion concorde rigoureusement avec le compte administratif et présente, comme ce dernier, un excédent global de clôture de 618 527,78 €. Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2020 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés qu'il a possédé à toutes les opérations d'ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures, considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, Il est demandé à l'Assemblée délibérante d'approuver le compte de gestion du budget principal de la commune pour l'exercice 2020. Voilà, ce compte de gestion visé, certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
Merci, M. Garrino. S'il y a des questions, M. Rappel.
Merci. Pas une question, mais deux observations très courtes hein, pour vous rassurer. On s'abstiendra sur ce vote-là, de manière conforme, compris, à travers de ce qui s'est dit dans le DOB. On ne partagera pas la gestion du compte administratif, donc le compte de gestion étant son pendant, on valide bien le fait que ces comptes soient concordants avec le compte administratif, donc on ne mettra pas ces éléments en cause. Je revois simplement, moi, tous ceux qui sont vraiment pas des habitués de ces documents, moi, je m'intéresse à la page 22, hein, qui est les résultats budgétaires de l'exercice, parce que ça met en avant de manière criante des choses que l'on a pu dire précédemment. En section de fonctionnement, ont été dépensés sur l'exercice 2020 371 000 € de dépenses plus que de recettes. Je vous renvoie à ce que chacun devrait faire en termes de gestion sur le domaine privé. Si on est ça dure pas longtemps. Je vais tenter de dire heureusement que vous avez un excédent de fonctionnement conséquent, hein, 961, enfin, au global entre fonctionnement et investissement, 961 000 € sur le total au 31 décembre 2019. Ce qui est pointé aussi en investissement, c'est qu'on a des recettes, hein, qui sont essentiellement des dotations et des subventions qui sont supérieures aux dépenses, situation qui est idyllique, bien évidemment, mais qui ne saurait durer et que c'est trop perçu, entre guillemets, de recettes par rapport aux dépenses. Soit c'est des recettes qui correspondent à des dépenses qui ont été effectuées l'année d'avant, ou c'est des acomptes. Et bien évidemment, ça masque un petit peu... à travers cet exercice et ces recettes supplémentaires, bien évidemment, elles ne tomberont pas sur l'exercice 2021 ou sur les autres. Et on vient faire un petit peu ici un cadre budgétaire qui masque un petit peu un niveau d'investissement qui est des plus faibles qu'on a pu rencontrer depuis plusieurs années. Donc, pour vous redire, on ne remet pas en cause le travail qui a été fait et qui est bien concordant avec le plan administratif, mais on s'abstiendra au regard de ces deux aspects qu'on a pu déjà pointer par ailleurs.
Alors là, je suis assez dépité parce que je pensais pas qu'on attaquerait dès le compte de gestion. Alors, bon, si on est en déficit sur l'année de 371 000 €, c'est car des engagements des dépenses ont été pris bien avant qu'on arrive. Et effectivement, c'est difficile de revenir sur une situation qu'on nous a laissée en 6 mois. Parce que je vous rappelle qu'on a été élu en juillet. Donc là, franchement, je la trouve fort de café, celle-là.
Monsieur Martin, vous êtes très fort, honnêtement. C'est vous qui nous mettez dans la mise complète et en plus vous osez dire qu'on a dépassé 371 000 € en 6 mois. Alors là, franchement, chapeau bas. Chapeau bas parce que là, franchement, je serai à votre place en tant qu'ancien adjoint aux finances. Déjà, j'aurais démissionné, je serais parti à la pêche parce que ce que vous avez fait de mettre des comptes en couche, j'en ai pas vu.
C'est mieux
et,
que
là, et vous amusez de dire que c'est nous, alors là, chapeau bas. Quoi qu'il en soit, je le redirai à la fin de la séance, il va y avoir une réunion publique pour qu'on vous explique bien ce qui est l'audit qu'on a fait à 4 800 €, oui, mais au moins on ne pourra pas dire que on a essayé de trafiquer les comptes. Et de deux, on verra qui c'est qui a tort et qui c'est qui a raison. Honnêtement, alors là, bravo, il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose.
C'est pas la peine, hein, de perdre du temps, les annonces pareil. Hein.
Non.
Meilleur que Bompard.
Ah oui, vous nous faites du Bompard, voilà, tout simplement. Je passe au vote. Qui s'abstient? La liste Agir Ensemble pour la PALU et la liste la PALU Espoir. Qui est contre? Vote à la majorité, je vous remercie. Quatrième délibération, approbation du compte de gestion 2020, service assainissement, commune de la PALU, M. Carimans-Jean-Marc.
Voilà, donc pour le service assainissement, il précise que ce compte de gestion concorde rigoureusement avec le compte administratif et présente comme ce dernier un excédent global de clôture de 362 500 €. Donc je ne vais pas vous relire tout. Il est demandé à l'Assemblée délibérante d'approuver le compte de gestion du budget assainissement pour l'exercice 2020. Ce plan de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur sa tenue des comptes.
Des questions, des observations ? Aucune, je passe au vote. Qui s'abstient ? La liste Agir ensemble pour la PAMU ? La liste La PAMU Espoir ? 2. Qui est contre ? Vote la majorité, je vous remercie. Délibération, élection du président de séance avant l'adoption des comptes administratifs de la commune de la PAMU du service assainissement. Donc pour les questions 6 et 7, il est demandé d'élire un président. Je peux assister au débat, mais je ne peux prendre part au vote. Il est proposé d'élire un en dessous de toi président de séance pour ces deux questions. Je passe au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Sixième délibération, adoption du compte administratif 2020 de la commune de la PAMU. Monsieur Jean-Marc Garrigans.
Voilà, donc pour le compte administratif, donc les résultats du compte administratif de la commune, en conformité avec le compte de gestion dont on vient de parler, présentent un excédent de fonctionnement de 497 774,54 euros et un excédent d'investissement de 120 753,24 euros. Soit un excédent global de clôture de 618 527,78 euros. Donc nous en avions largement parlé lors du DOB. Donc si vous souhaitez qu'on réponde à des questions, on le fera. Moi j'aurais juste un petit commentaire à faire. Dire qu'effectivement sur 2020, on a hérité d'une situation qui se dégradait. Donc c'est sûr que la situation du fonctionnement au niveau de la commune se dégrade depuis 2-3 ans. Qu'avec la DSC qui dépasse les 600 000 euros pendant 3 ans, de 2017 à 2019, on ne s'en est pas vraiment rendu compte. Je pense que là, il y a eu un petit problème de maîtrise. Hein. Donc effectivement, on s'en rend compte aussi de manière importante, parce que la DSC a baissé, elle a baissé très fortement. En 2020, plus que 153 000 euros, elle était à 621 000. Donc la différence est énorme. Donc voilà, moi ce que je peux dire simplement, c'est qu'on a un petit peu, on a manqué d'anticipation dans cette affaire. Il aurait peut-être fallu, peut-être pas titulariser plein de gens, enfin en tout cas un certain nombre de personnes, fin 2019 ou fin 2018, parce que là maintenant c'est des charges que nous avons à plein, et qu'on ne pourra pas diminuer. Alors bien sûr, moi je ne veux surtout pas mettre en cause le personnel, parce que le personnel est très bien. On a été très, très heureux de rencontrer cette équipe d'agents qui sont très performants et qui sont absolument volontaires. Donc bien sûr, ce n'est pas de leur faute. Hein, mais là, effectivement, on aurait peut-être dû s'y prendre un peu autrement. En ce qui concerne les charges de fonctionnement, c'est vrai qu'il y a eu des renforcements de services qui était sans doute utile, mais là on aurait peut-être dû vérifier si on avait les moyens de le faire, si la DSC devait disparaître ou en tout cas diminuer fortement, chose qui n'a pas été faite. Donc ça c'est un peu dommage. Donc parce qu'aujourd'hui on va devoir gérer ça, mais bon on est là, donc la situation étant ce qu'elle est, il va falloir qu'on gère, tout simplement, hein, on n'a pas le choix. Hein. Donc en espérant quand même qu'avec la communauté de communes, on pourra quand même obtenir quelque chose. Cette année, on a eu quelque chose, mais bon, si on pouvait avoir l'année prochaine encore et peut-être jusqu'à la fin du mandat une DSC, ça serait formidable. Hein. Mais bon, aujourd'hui, on n'en est pas sûr. On attend aussi, alors, la Comcom, je ne sais pas quelle est sa santé financière. Il faut qu'on attende le résultat du contrôle de la Chambre régionale des comptes pour voir un petit peu ce que, au niveau de la gestion, ce qu'elle en pense. Ça a l'air, honnêtement, là, on a conseil communautaire mardi soir, les comptes ont l'air bons, au niveau du fonctionnement en tout cas. Voilà, donc il y a sans doute des marges de manœuvre que nous n'avons pas au sein de la Comcom, hein, donc ça, on verra un peu plus tard. Voilà, donc voilà, je trouve juste que la situation est un peu triste, mais qu'on est solidaire et on va devoir relever ce challenge ensemble.
Y a-t-il des questions ? Oui, M. Bradin.
Bon, je vais essayer de répondre point par point à vos interpellations, puis aussi à vos surprises. Et je laisserai M. Lambertin à vouloir vous comparer avec Mme Bompard. On verra ce qui se passe dans les mois, les semaines et les mois prochains. Vous avez voulu pointer la situation catastrophique de la Palu et le bilan déplorable. Je vous rappellerai juste le chiffre qu'on vient de voir précédemment, hein, qui était l'excédent au 31 décembre 2019. Je vous parlerai de 2020 derrière. Juste rappeler, monsieur le maire, madame la première adjointe, hein, et certains de vos policiers, vous faisiez partie de l'équipe.
C'est reparti.
Et oui, mais le même discours que vous tenez, moi je tiendrai le même discours. Et c'est que ce bilan que vous avez voté, aujourd'hui, n'est plus bon. Vous avez le droit. Je ne vous ai jamais entendu contester à la fois les actions que l'on a pu porter et le fait que la DSC qu'on a pu mobiliser ait servi à réaliser tout ce qui a pu être réalisé sur le mandat précédent. Aujourd'hui, vous le contestez, soit, si j'ai bien compris, ce n'est plus votre bilan. Donc, considérable que c'est le bilan de M. Soulavie et étonné. Je veux juste vous redonner les excédents de fonctionnement sur les exercices 2017, 2018 et 2019, celles où on a perçu la DSC. 2017, un excédent de fonctionnement de 464 000 euros. 2018, un excédent de fonctionnement de 863 000 euros. Donc on est en augmentation par rapport à 2017. 2019, un excédent de fonctionnement de 869 000 euros. Encore en excédent. Ça veut dire qu'à aucun moment, on a dépensé plus que ce qu'on a perçu comme terme de DSC. Alors, on aurait dû faire quoi? Ça veut dire que cette DSC, ne pas l'utiliser, la garder, de façon à créer un excédent supérieur aux millions qui ont été au 31 décembre 2019. Ce n'est pas le choix qui avait été fait à l'époque. Monsieur le maire, vous en avez solidarisé de nouveau. C'est cette DSC qui nous a notamment permis de faire du 1 pour 1. Je constate aujourd'hui que vous voulez de la DSC qu'à un moment donné, vous nous reprochez maintenant d'avoir utilisé. L'exercice 2020, effectivement, est comptablement a fait l'objet de deux mandatures. En gros, une qui s'arrête au 30 juin et avec M. Soulavie comme maire, et puis votre arrivée début juillet. J'ai repris, moi, le décompte des dépenses de fonctionnement arrêtées au 30 juin. Montant de ces dépenses, 1 221 000 euros, soit 43% des dépenses de fonctionnement. Des dépenses de fonctionnement sur la totalité de l'exercice 2020. Ça veut dire que si au 32 juin on a dépensé 43%, il y en a 57% qui ont été dépensés sur le second semestre. Si sur le second semestre on avait eu le même niveau de dépenses que sur le premier, c'est 400 000 euros de dépenses de fonctionnement en moins sur l'exercice. Je ne sais pas qui est le plus dépensier, celui qui en a dépensé 43% sur les 6 premiers mois ou celui qui en a dépensé 57% sur les 6 mois suivants. Juste pour parenthèse, hein, pour venir recaler certaines choses, sur les 6 premiers mois, la contribution au SDIS est plein pot, hein, de la même façon que les charges financières sont plein pot, etc. Juste pour amener qui est venu apporter des dépenses. S'agissant du personnel, des dépenses que vous avez pu pointer, et de titularisation, des augmentations d'effectifs qui auraient pu être portées. Je vous laisse regarder l'évolution du chapitre 12, depuis qu'il y a eu des transferts de compétences. Systématiquement, le chapitre 12 diminue. Je vous donne aussi trois chiffres. La masse salariale en octobre 2019, 98 000 euros. La masse salariale en mars 2020, 95 900 euros. La masse salariale en octobre 2020, 95 800. Je ne sais pas où sont vos embauches et vos titularisations supplémentaires sans façon que ça se réduise par une diminution de la masse salariale. Alors effectivement, on peut venir faire parler les chiffres et chercher qui est le coupable. Aujourd'hui, ces chiffres-là, je veux bien les mettre sur la table et demain le défendre devant une réunion publique. Après, s'agissant de la DSC, qui est coupable de faire en sorte que la communauté de communes n'a pas voulu abonder la DSC? Qui est aux manettes depuis le 4 juillet? Qui est en discussion? Qui est vice-président de venir discuter? Je vous laisse demander. Juste venir, s'agissant de ce compte administratif, hein, je ne reviens pas sur cette gestion où on dépense plus qu'on encaisse. Et je vous renvoie à la part de chacun. On est sur des dépenses de fonctionnement qui ont augmenté, 62 000 euros. Vous l'aviez pointé dans le DOB. c'est pas lié à l'effet Covid, hein. Vous l'aviez chiffré, c'est 12 000 euros. On aurait dû s'attendre à l'ensemble des dispositions qui, malheureusement, n'ont plus eu cours à avoir une baisse substantielle. On ne la retrouve pas et je viens de vous indiquer ce qui s'est passé sur le second semestre. Et M. Garinos avait eu l'honnêteté aussi de venir voter, c'est que les dépenses 2020 qu'on aurait dû retrouver sur le second semestre, notamment à des dépenses d'eau, on va les retrouver sur 2021, alors c'est que 8 000 euros, mais c'est 8 000 euros qui sera ajoutable. Chapitre 12, je le redis, en 2020, augmente de 25 000 euros. Je ne sais pas où ils sont, je ne sais pas quel recrutement, mais je vous laisse pointer, parce que là aussi, au 30 juin 2020, les dépenses de personnel seront à 42% de ce qui a été dépensé en totalité. Donc, c'est pas sur les 6 premiers mois qu'on fait courir le volet budgétaire. Après le reste, je ferai que me répéter. Un petit mot sur les dépenses d'investissement. Elles ont diminué de 560 000 euros par rapport à l'exercice précédent. L'effet Covid n'y est pas pour la totalité. Alors, je relative toujours, parce que c'est vrai que l'année d'une première installation, il y a des choses qui prennent du temps à se lancer. Je vous renvoie toujours à votre programme qui était magnifique, vendeur, riche, en termes notamment de projets d'investissement. J'ai le sentiment qu'aucune étude n'a été lancée. Je serais tenté de dire que la PALU a perdu une année.
Alors, je vais d'abord répondre avant de laisser la parole à M. Garinas. Alors, quand nous sommes partis en 2014, je suis partie avec une équipe et je pense que mes collègues qui sont partis avec vous étaient tout à fait du même avis que moi. On a fait confiance à cette équipe, on a fait confiance aux adjoints qui étaient aux manettes. Nous n'étions pas aux manettes, nous étions pour la plupart de simples conseillers municipaux. Moi, je ne suis pas venue vérifier les comptes derrière vous, M. Rapin. Ce n'était pas le but, j'ai fait confiance à cette équipe. Or, je me suis rendu compte qu'après, eh ben, je n'aurais peut-être pas dû faire confiance. C'est aussi pour ça que je suis partie. Et que mes collègues, je ne sais pas s'ils me contrediront, sont partis eux aussi. Première chose. Ensuite, vous avez évoqué, je ne sais plus, j'ai perdu le fil, du coup. Je ne sais plus, je vais peut-être passer la parole à M. Garinos, mais si ça me revient, je reprendrai le micro tout à l'heure.
Voilà, donc moi, pour le compte administratif, on l'avait donc largement évoqué la dernière fois, donc je pense qu'on peut peut-être passer au vote, tout le monde a pu le lire. Voilà.
Monsieur Martin.
Et ma seconde intervention sera vraie. Vous pouviez vérifier les comptes. Mais je vous les laisse vérifier. Mais prenez tout le temps pour les vérifier. Juste pour garantir que vous ne trouverez pas un euro de malversation. Qui ont pu servir à faire je veux finir mon propos. Quand vous dites je veux vérifier, chaque euro public a bien été dépensé pour le public et je n'ai pas financé quelque aménagement que ce soit, quelque piscine que ce soit. Monsieur Soulavi n'a pas fait de même, quelque élu que ce soit ne l'ait fait. Et donc on est bien sur des comptes, et quand vous dites vérification, le percepteur, à aucun moment, n'a émis la moindre critique. On est bien sûr des dépenses qui ont été justifiées, etc. Ce que vous êtes en train de redire, c'est que la façon dont on a dépensé l'argent n'a pas été de votre goût. Enfin, n'est plus de votre goût maintenant.
Je crois me souvenir de vous avoir interpellé sur certains travaux où nous n'étions pas d'accord.
Oui.
N'est-ce pas?
Pour la place d'Henri.
Nous n'étions pas toujours d'accord avec les travaux, mais bon, on a suivi la majorité. Vous nous avez reproché aussi plusieurs fois de toujours suivre et de toujours voter comme vous. Une seule fois, nous nous sommes abstenus pour une question. On s'est fait un peu ramasser. On nous a remis d'aplomb et on nous a dit qu'il fallait voter comme la majorité. Je vous laisse terminer.
Merci. Pointer, c'est on a, je crois, toujours fonctionné avec chaque fois la demande des élus, chacun dans sa délégation. Vous en étiez, monsieur le maire en était. Quels sont les projets que chacun a voulu porter? Je vous cherche, je vous laisserai le soin de venir porter, quels sont les projets que chacun a pu porter pour lesquels on n'a pas dû dire oui, ou on a dit de manière expresse non. Donc je suis bien, chaque fois que quelqu'un a voulu le faire, on l'a laissé le porter dans la mesure où les finances le permettaient. Les finances le permettaient, pour ça il en est là au travers d'excédent. Aujourd'hui, enfin, vous n'êtes pas d'accord, mais je ne sais pas où est le reproche. Enfin, si ce n'est, et je le traduis au travers de la pensée de M. Garrido, c'est qu'on aurait dû anticiper. Bon, anticiper, c'était voilà. Garder la DSC.
Voilà.
Pour la retrouver maintenant. Mais ça signifie aussi que, je vous rappelle ce que l'esprit, hein, c'est que dans le même temps, l'Interco a lâché les fonds de recours. Et c'était bien le financement du 1 euro mis à disposition par la communauté de communes à partir du moment où la commune mettait 1 euro. Sous réserve de jamais dépasser les 80% et de pouvoir faire appel à d'autres projets. Chacun aurait pu s'exprimer de manière majoritaire sur le fait de dire je ne veux pas qu'on réalise les travaux sur la ligne d'Orange, je ne veux pas qu'on vienne faire la réfection de la salle polyvalente, je ne veux pas qu'on engage les travaux de rénovation de l'école René Char avant que la compétence soit transférée.
Et la place devant la mairie.
Et l'extension de la vidéosurveillance et tout derrière la mise en œuvre du résine, etc. On n'a entendu personne le dire, et tant et si bien qu'à la sortie, c'est même ce bilan que chacun veut s'octroyer. Et je crois que modestement, on ne s'est pas étendu sur ce bilan, ce n'est pas lui qui est rentré dans la campagne, on s'est plus focalisé projet contre projet, en vous disant, vous étiez dedans, ce bilan, effectivement, et autant le vôtre, que celui de sous la vie, celui qu'il a été, chacun dans son domaine de compétence. Voilà. Que maintenant, vous regrettiez que les 961 000 ne soient pas devenus 2,5 millions. Okay. Si on avait 2,5 millions aujourd'hui, on n'aurait pas fait l'avenue d'Orange, on n'aurait pas rénové l'école René Char, on n'aurait pas fait cette salle, on aurait fait un certain nombre de services qu'on n'a pas fait. Ça veut dire qu'on aurait pu thésauriser et faire en sorte que la PALU perde 6 ans. C'est ce choix qui a été fait assumé, et je crois que les Appaluciens se sont retrouvés aussi derrière vous. Hein. Vous êtes devant, vous gagnez les élections. Guy Soulavi représente 40% des votants. Alors, votants pas nombreux, mais ça reste des pourcentages, et vous faites 45%. Mais que majoritairement, les Appaluciens ne sont pas portés sur vous. Je ne remets pas en cause, vous avez gagné ces élections et vous êtes légitime aujourd'hui à piloter. Focalisez-vous sur comment vous allez dérouler votre projet. Vous auriez eu des caisses dans le rouge, je peux bien entendre. Je vous invite, M. Garrinos, vous avez salué l'efficacité des services et je crois que vous avez aussi su faire appel à un DGS de talent qui a aussi des talents financiers. Reprenez toutes les opérations comptables de la défense de section de fonctionnement. Venez faire l'addition au 30 juin 2020. Puis on en reparlera si on n'est pas d'accord sur les chiffres.
D'accord.
Oui. Je suis content, monsieur Gordon, parce que vous avez reparlé des votants, et c'est sûr que c'est 40% des votants. Parce que la dernière fois, j'ai encore entendu parler, c'était 40%
des appels. Pour vous, c'est 45% des votants.
Oui, mais tout à fait. Mais je n'ai jamais dit que c'était 45% des appels du ciel. Vous vous permettez de dire 40% des votants, des appels du ciel. Il n'y a que là, aujourd'hui, que vous venez de dire 40%. Des votants, donc vous avez remis les candidats. Ça, je ne suis pas contraire. Je vous signale que M. Soulavi s'est permis pendant des mois et des mois de me critiquer, soit, mais de dire que j'étais le premier adjoint virtuel. Alors, qui dit virtuel dit qu'il n'a pas fait grand-chose. Soit, c'est facile à dire. Donc, à partir de là, je pourrais vous contrer en disant, étant donné que je n'ai rien fait, je ne peux pas critiquer, plus ou moins, et je ne peux pas non plus vous mettre des fleurs. Vous dites aussi qu'on a, on a rien fait depuis 6 mois, vous permettez de mettre ça sur les réseaux et autres, et on aurait dépensé 370 000 euros. Donc, alors, c'est quoi sur une attaque? C'est-à-dire que vous parliez qu'il y avait des... Vous n'avez pas fait de piscine à côté, quoi que ce soit. Donc, ça veut dire quoi? Qu'on aurait mis des sous de côté pour faire des piscines ou autre?
Non.
Je ne crois pas. Voilà. Vous êtes honnête là-dessus, et je crois qu'on l'est aussi. Depuis le débat du DOC, je vais me répéter encore une fois, je remercie M. Zidio qui a bien voulu, le président de la CCRLP qui a bien voulu nous écouter, parce que si on n'avait pas eu les 153 000 euros déjà pour cette affectation des résultats de l'exercice 2020, on ne serait pas bien. Et pour le budget primitif à venir, si on n'avait pas les 394 000 euros qu'il a bien voulu nous octroyer par rapport à la rencontre qu'on a eue avec lui, je ne dis pas qu'on serait carrément dans le rouge. Alors il faudrait m'expliquer, au bout de 6 ans de mandat, qu'on dise qu'on soit dans le rouge parce qu'on a eu une très mauvaise gestion, soit, mais expliquez-moi, en 8 mois, si on en est arrivé là, ce n'est pas quand même de la faute de la nouvelle municipalité. Je suis désolé.
Oui, Madame Sorti. Bon, je ne prends pas souvent la parole, mais en fait, il y a des choses qui me choquent là dans la réunion. C'est que c'est vraiment dommage parce que M. Drapin n'était pas maire à l'époque. Il était juste comme M. Garinos aujourd'hui. Et j'espère, M. Garinos, qu'à la fin du mandat, on ne mettra pas responsable de tout ce qui s'est passé pendant le mandat. Donc, des fois, je me dis, mais M. Drapin est en finance comme M. Garinos est aujourd'hui. J'espère que vous êtes tous responsables et vous participez à ce qu'il fait. D'accord ? Et que quand on vous aurez fini, vous ne serez pas coupable des erreurs que vos collègues auront fait. Voilà. Ça me choque. Honnêtement, ça me choque. Voilà. Monsieur Soulavi, il a fait ce qu'il a fait. Moi, je n'étais ni avec vous, ni avec les autres. Mais ses propos me choquent. C'est comme si on attaquait un comptable pour un échec d'une société parce que c'est sa faute alors qu'il y a des patrons qui gèrent. Voilà. Donc, j'espère pour vous, monsieur Garinos, que vous ne serez pas dans ce cas-là à la fin du mandat.
Bien, nous allons passer au vote.
Monsieur le maire, s'il vous plaît.
Qui s'abstient ?
Deux abstentions.
Qui est contre ?
Cinq contre.
Très bien.
Monsieur le maire ?
Alors, septième question, adoption du code administratif 2020, service d'assainissement commune de la Palue, M. Gardien Jean-Marc.
Merci. Donc, pour l'adoption du compte administratif du service assainissement, je vais juste rappeler les résultats du compte. Donc, en conformité, bien sûr, avec le compte de gestion du receveur, il présente un excédent de fonctionnement de 220 389,30 €. Et un excédent d'investissement de 142 111,68 €. Donc, soit un excédent global de clôture de 362 500,98 €.
Y a-t-il des questions ? Nous allons passer au vote. Des abstentions ? Sept abstentions.
Pas l'unanimité.
Monsieur le maire, s'il vous plaît.
Alors, affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2020, commune de la famille, monsieur Carino Jean-Marc.
Donc, pour l'affectation des résultats, donc on va rappeler les résultats du compte administratif. Donc, il y a un excédent de fonctionnement de 497 774,54 €, un excédent d'investissement de 120 753,24 € et un excédent de reste à réaliser de 24 078 €, soit un excédent global de 642 605,78 €. Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2020 en résultat reporté en fonctionnement au budget primitif 2021, soit 497 774,54 €.
Plus des questions ? Des observations ? Monsieur Grandet ?
Oui, on s'abstiendra sur cette question. On va être cohérent avec ce qu'on a voté sur le compte administratif. Au regard du vote de votre budget tel qu'il va suivre par la suite, et au regard de l'augmentation de la DSC, sur laquelle permet de dire qu'on va arriver à qui auraient absorbé vos dépenses de fonctionnement. Et dans le même temps, on a un niveau d'investissement qui est des plus bas et un virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement qui est proche de zéro. Il me semblait, et on pointera tout à l'heure les postes qui nous semblent aberrants en termes d'augmentation ou incohérents, vous auriez pu faire remonter un peu plus en section d'investissement au regard du projet que vous avez pu présenter. Parce que si tout reste en section de fonctionnement et que sur chaque année le niveau d'investissement n'est pas supérieur à ce qu'il est, je ne sais pas.
Donc là, on parlera du budget 2021 tout à l'heure.
Une question, une observation, je passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Liste arrive ensemble pour avaler la liste n'a pas du espoir. Vote à la majorité, je vous remercie. La même délibération, application du résultat de fonctionnement de l'exercice service assainissement commune de la Palue. Monsieur Garinos.
Merci. Donc pour le budget assainissement, donc là nous avons un excédent de fonctionnement de 220 389,30 euros, un excédent d'investissement de 142 111,68 euros et un déficit de reste à réaliser de 5 944 euros. Soit un excédent global de 356 556,98 euros. Donc il est proposé à l'Assemblée donc, d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2020 sur l'exercice 2021 donc, pour 220 389,30 euros en résultat reporté.
Est-il des questions, des observations ? Aucune, je passe au vote. Qui s'abstient ? Ensemble pour la valeur, c'est la liste de la base d'espoir. Qui est contre ? Vote majorité, je vous remercie. Dixième délibération, vote des taux d'imposition de la fiscalité directe locale pour l'année 2021. Monsieur Garimos.
Voilà donc pour la partie vote des taux, donc comme on s'y était engagé, donc on ne touche pas au taux d'imposition, donc on vous propose de fixer les taux d'imposition comme ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire taxe d'habitation à 11,46%, la taxe foncière sur les propriétés bâties à 14,44%, et la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 58,45%. Donc ces taux ont été inchangés en 2020, bien sûr. Alors, considérant qu'à compter de l'année 2021, la taxe d'habitation sur les résidences principales ne sera plus perçue par les communes, mais par l'État, donc, et en contrepartie, le taux de taxe foncière sur propriété bâtie 2020 du département, qui était donc l'année dernière donc à 15,13%, est transféré aux communes. Donc en fait, ça ne fait pas plus pour les gens, hein, les gens payent la même chose, mais ce n'est plus le département qui touche cette somme, c'est la commune. Donc les 15,13 sont rajoutés à notre taux de 14,44 et on arrive donc à un taux communal pour 2021 de 29,57%. Voilà. Donc il est proposé au conseil municipal, suite à ces informations, de fixer le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties à 29,57%, donc sans augmentation par rapport à 2020. Et pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 58,45%. Pareil, sans changement par rapport à 2020.
Y a-t-il des questions, des observations ? Monsieur Grandet.
Monsieur Garnier, une partie de votre propos me gêne un peu. Alors, c'est vrai que comptablement, pour les gens, ça ne change rien. On vient jouer sur ce qu'a imposé le législateur, en sachant que la commune de la Palue, en termes de taxes d'habitation, une fois vers cette recette-là, mais les contribuables doivent y gagner. On va quand même se projeter un petit peu dans la situation que va nous laisser la crise sanitaire, et on en mesurera les effets, malheureusement, que sans doute la fin de l'année prochaine, et que dans nombre de foyers, le fait de percevoir la même chose, on a le même niveau de dépenses, mais si le niveau de recettes diminuer à la fin de l'année, ça coince un peu dans les temps. Je vais juste me focaliser sur le foncier bâti, parce que le foncier non bâti représente peu en termes de recettes. Aujourd'hui, sur la base de ce taux agrégé entre la part de la commune et la part du département, un point de taxe foncier bâti représente à quelque chose près 37 530 euros. Si je me focalise, moi, sur le seul chapitre 12, au regard de votre budget, vous envisagez possiblement de pouvoir augmenter les dépenses de personnel de 95 000 euros. Si je le traduis, c'est un peu plus de 2,5 points. Je le traduis pour chacun des foyers assujettis à l'impôt, c'est près de 60 euros. Considérez que chaque fois que vous allez annoncer à la Palucien que les dépenses de personnel augmentent sur la commune de la Palu, il finance à hauteur de 60 euros. Pas de transfert de compétences, des choses un petit peu déguisées, on va le voir tout à l'heure. Je crois que c'est de l'argent public. Si on doit se poser la question, est-ce que vous avez effectivement tenu votre promesse, mais comme tout le monde les fait aujourd'hui, de ne pas augmenter la fiscalité? C'est qu'est-ce qu'on en fait? Et aujourd'hui, au regard de la section de fonctionnement telle que vous allez nous la proposer, pas d'accord avec vous, aussi on s'assiedera sur cette question.
Vous avez fait une chose énorme. Okay, on s'est engagé à ne pas augmenter les impôts lors de notre camp. En 2020, et là je ne comprends pas, après c'est pas grave, vous mélangez un peu tous. Et on avait dit qu'on n'augmenterait pas, et vu notre situation financière extrêmement délicate, nous ne le ferons pas, ça c'est sûr et certain. C'est pas aux administrés à payer les pots cassés de leur part ancienne, toujours aux finances. Je passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote? Les stagiaires ensemble, et la liste de la peine de support. Vote à la majorité, je vous remercie. Troisième délibération, vote du budget primitif de la commune de la Palu, M. Gagnos.
Voilà qu'on en arrive au budget. Donc effectivement, nous avons un budget que nous vous avions déjà présenté rapidement lors du DOB, qui s'élève à 2 957 000 euros en section de fonctionnement et à 792 000 euros en section d'investissement. Alors vous nous dites que c'est pas beaucoup, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais là c'est avec ce qu'on peut faire, vu les moyens que nous avons. Donc aujourd'hui, par rapport à 2020, la section de fonctionnement, elle baisse de 6%, soit 299 200 euros. Et la section d'investissement, elle baisse de 54%, soit 931 700 euros. Donc effectivement, pour pouvoir bénéficier des fonds de concours et pour pouvoir justement faire des travaux d'investissement, il faut mettre un euro pour avoir un euro de la Comcom. Donc aujourd'hui, je vous le répète, il reste 500 000 euros de fonds de concours à utiliser, et malheureusement on va en utiliser un petit peu les programmes que nous avons là, mais de manière très modeste, parce qu'on ne pourra pas utiliser les 500 000 euros. Il y a aussi maintenant la dette qui a été contractée en 2018 qui est payable depuis 2019 annuellement. Donc là aussi, ça a un petit surcoût pour la commune. Voilà, donc on peut peut-être passer au détail par chapitre, si vous le souhaitez. Donc pour les charges à caractère général, elles s'élèveront à 750 000 euros. Les charges de personnel à 1 393 000 euros. Les atténuations de produits, c'est le fameux PIC qui est payé parce que nous sommes dans une interco riche, 171 000 euros. Les autres charges de gestion courante pour 306 860 euros. Les charges financières pour 94 000 euros. les charges exceptionnelles pour 12 000 euros, les dépenses imprévues pour 69 640 euros. Donc, cette somme vous paraît importante, mais en fait, nous avons prévu quand même que la brasserie du lac, on voit un terme à cette affaire, et nous aurons sans doute des frais à payer. Donc, on préfère prévoir quelque chose au cas où. Bien sûr, là, on ne sait pas exactement combien ça va coûter. Ça va sans doute, la recherche en responsabilité va être sans doute un peu compliquée, mais on aura sans doute quelque chose à payer, c'est quasiment certain. Alors, le virement à la section d'investissement dont M. Grappin nous dit qu'il est modeste, il est vraiment très modeste, hein, il est même ridicule, hein, je crois que j'en ai jamais vu un dans ma carrière, et ça fait quelques années que je travaillais, donc bon, j'ai jamais vu aussi peu. Donc, 20 500 euros. Les opérations de transfert de section à section, c'est les amortissements, donc pour 140 000 euros. Donc au total, on a des dépenses de fonctionnement pour 2 957 000 euros. En ce qui concerne les recettes, donc nous avons les atténuations de charges pour 8 646,46 euros. Donc là, on a arrondi la section là, avec ce montant-là. 70, c'est les produits de service, donc 89 000 euros. Impôts et taxes, 1 923 000 euros. Dotation et participation, 408 000 euros. Autres produits de gestion courante, 19 000 euros. Et opérations de transfert de section à section, 11 579 euros. Bien entendu, le résultat reporté dont on vient de parler tout à l'heure, 497 774,54 euros, soit au total pour le fonctionnement recette 2 957 000 euros. Pour ce qui est de l'investissement, donc nous avons des immobilisations corporelles pour 108 313 euros, des immobilisations en cours pour 228 178 euros, le remboursement d'emprunt pour 99 000 euros, les autres immobilisations financières, c'est un cautionnement pour 3 330 euros, C'est toujours l'affaire de la brasserie du lac, d'ailleurs, ce cautionnement. Et ensuite, on a une opération de transfert entre sections pour 11 579 euros, soit des dépenses d'investissement qui s'élèvent à 792 000 euros. Pour les recettes, nous avons des subventions d'investissement pour 205 763,35 euros, des immobilisations en cours pour 60 000 euros. C'est le reversement que nous fait la communauté de communes sur les travaux concernant l'accessibilité. C'est ce qu'elle a prévu à son budget. Nous avons également des dotations fonds divers et réserves pour 244 983,41 euros et le virement de la section de fonctionnement de 20 500 euros et les amortissements pour 140 000 euros. Voilà. Donc, nous avons également un excédent reporté de 120 753,24 euros et donc un total de recettes d'investissement de 792 000 euros. Alors, si on a effectivement un petit excédent d'investissement de l'année de 2020, c'est aussi parce que quand je me suis aperçu qu'on allait avoir du mal à boucler le budget, j'ai demandé à ce qu'on sollicite le maximum de versements de subventions. Donc pour toutes les dépenses qu'on avait faites, on a demandé tout de suite les sous, pour surtout ne pas être déséquilibré en investissement. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on s'est dépêché de faire. Bon, maintenant on ne dépensera moins de sous, donc de toute façon, voilà, je pense que le risque de déficit, même s'il y en a un, il ne sera pas élevé.
Est-ce des questions ou des observations, Monsieur Marais?
Juste quelques analyses de chiffres. Et, je vous rassure, je ne vais pas tous les pointer en vue. J'aime toujours moi faire le comparatif entre ce qu'on vote une année et ce qu'on a réellement dépensé les années, au moins l'année précédente ou les années précédentes, parce que quand on est sur une situation qui est des plus serrée, c'est d'avoir les budgets les plus justes pour se donner les marges de manœuvre nécessaires, ou alors c'est la volonté de thésauriser, mais ça ne m'a marche pas très longtemps. S'agissant des charges à caractère général, enfin, et je me remets toujours dans la situation où on répète que la municipalité précédente serait le fautif de ce qui se passe, même si je le redis, je vous renvoie à l'excédent, je vous renvoie à qui a dépensé sur 6 mois, je vais vous focaliser sur votre budget 2021. Charge à caractère général, le chapitre 11, on est sur une augmentation de près de 3%. Alors, vous me direz, c'est que 3%, mais c'est toujours 3%, et je pointe quelques éléments. Des contrats de prestation de services qui étaient de 52 000 euros en 2019, on est aujourd'hui à près de 68 900 euros, donc plus 16 000 euros sur ce seul poste. S'agissant des contrats de maintenance, 41 000 euros en 2019, on est sur des contrats de maintenance de 60 000 euros. J'ai du mal à voir où sont ces nouveaux contrats de maintenance, puisque tous les gros équipements relèvent aujourd'hui d'une gestion intercommunale. Et un des postes, et pour le coup, on se satisfait de voir qu'il continue, parce qu'on avait pu avoir des doutes à un moment donné au travers de propos de certains, c'est ce qu'on rembourse au JFP de rattachement, donc à la communauté de communes, la ligne 62-876, pour 100 000 euros, où on trouvera notamment le résine et quelques prestations de service. On verra derrière, c'est que quand la communauté de communes doit faire, on est en train en ce moment, enfin on doit traiter sur 2021, à faire en sorte que la commune prenne à la place de la communauté de communes. Il me semble que vu les finances telles que vous les décrivez, c'est peut-être quelque chose dont on aurait pu se passer. Je reviens toujours sur ce chapitre personnel parce que lui m'interpelle et que je ne comprends pas. Où, dans, comment, pourquoi on arrive encore à pouvoir augmenter les dépenses de personnel de 95 000 euros, on a plus de 40 000 en rémunération principale de titulaires, plus 44 000 pour les non-titulaires par rapport à ce qui était consommé les années précédentes, qui était déjà en 2020 en augmentation. Enfin, je vous avoue ne pas comprendre. Du coup, mais je l'ai déjà dit dans le Daube, M. Garinos m'a dit que j'avais mal vu, mais j'ai recherché cette augmentation de DSC, mais je ne vois pas où elle est, si ce n'est qu'elle vient être saupoudrée un peu sur tous les aspects, mais on la revoit pas en section d'investissement. Je serais tenté de dire, M. le maire, que l'ambition et le dynamisme ne sont pas au rendez-vous. Ils étaient dans le nom de votre programme, mais je crois qu'ils ne seraient pas. Et si je devais... Alors je vais le prendre avec le sourire, mais je pense que la situation est grave, et plagier un petit peu un humoriste, je vous dirais, les comptes ne sont pas bons, et que les Lapalissiens attendaient quand même que vous leur mettiez un petit peu de paillettes dans les yeux au travers du programme que vous leur avez vendu.
Monsieur Grappel, les paillettes, c'est vous qui les avez mis pendant 6 ans dans les yeux des Lapalissiens, et on se retrouve maintenant avec des finances catastrophiques. Le sens de notre budget de ce soir, c'est simplement de remettre notre collectivité dans le vert, tout simplement. Vous nous laissez avec des finances catastrophiques, vous allez vous sortir 1 million, et quoi qu'il en soit, il y aura ce fameux audit qui va tout expliquer. Il va expliquer. Et ensuite, pour l'histoire des ressources humaines sur le chapitre 12, l'augmentation de 95 000 euros, elle est très simple. Il y a eu 25 000 euros par rapport au Covid, tout simplement. Là, il y a eu des personnes en NASA, il a bien fallu les remplacer. Parce que si on ne les aurait pas remplacés, on aurait dit qu'on aurait fait encore du gros n'importe quoi. Il y a eu l'histoire de l'ensemble des avancements d'échelons et de grades. Pour 17 000 euros. Alors à ce moment-là, vous allez me dire, le personnel, on n'en fait pas partie, on ne fait pas attention au personnel, et quand ils ont, on ne peut pas les augmenter, ni les monter en échelon. Ensuite, il y a eu quoi encore? Il y a eu le retour d'un agent en plein temps qui était malade depuis 3 ans, qui était en arrêt maladie. Là aussi, c'est un coût en plus, c'est 16 000 euros en plus. Ça va vite, hein? Voilà. Et ensuite, il y avait quoi? La titularisation d'agents sous l'ancienne mandature, bien entendu. Mais ça, ça a été à partir de... Il a fallu, parce qu'il y avait une adjointe à l'époque, elle n'était pas payée, elle n'était pas rémunérée. À partir de septembre, bien sûr, nous n'avions pas la licenciée, cette personne. Et nous l'avons embauchée, tout simplement, en contrat déterminé, bien entendu, puisqu'elle est... mais il a bien fallu la payer, elle ne va pas travailler gratuite toute sa vie. là aussi, c'est simple, tout est marqué. Hein. Voilà, on n'a rien à cacher là-dessus. Voilà. Ensuite, il y a les élections régionales et départementales, c'est estimé à 12 000 euros. C'est triste, hein, mais cette année, il y a des élections. Donc, il va bien falloir qu'on paye. Ça, c'est normal aussi. Voilà. Ensuite, il y a quoi? Le recrutement d'une personne supplémentaire au centre de loisirs, c'était bien cette personne que je vous ai dit avant. Tout simplement, voilà. Je suis désolé. Le problème qu'on a des finances en ce moment, c'est pas notre faute. Voilà, comme je vous dis, dans 5 ans, critiquez-nous peut-être sur les finances. Là, nous sommes en train d'essayer de remettre à plat. C'est sûr qu'un investissement, comme il a dit M. Garinos, 20 500 euros, c'est très peu. Mais on ne va pas s'amuser à dépenser à outrance quand on n'a pas de sous. Je suis désolé. Quelqu'un qui n'a pas de sous va pas au restaurant. Mais nous, c'est pareil. On va économiser le plus possible, tout simplement. Je passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? 5. La liste agent Sampon n'a pas vu. Et 2 de la Pagnesco. Vote à la majorité, je vous remercie. Vote du budget primitif, service assainissement, monsieur Gallois.
Alors pour le budget assainissement, donc je vais passer. Donc pour le. On va commencer peut-être par la section de fonctionnement. Donc pour le fonctionnement, charge à caractère général 222 266,68 €. Ensuite, les charges financières 18 800 €. Les opérations de transfert 54 733,32 €. En ce qui concerne les recettes, donc au total pour les dépenses de fonctionnement, nous sommes à 295 800 €. Pour les recettes, nous avons 42 000 € de vente de produits, subvention d'exploitation 10 012,70 €, et opération de transfert de section à section 25 398 €. Donc le résultat reporté, dont on a parlé tout à l'heure et que vous avez voté, s'élève à 220 389,30 €, soit un total de recettes de 295 800 €. Pour l'investissement, donc chapitre 23, immobilisation en cours, 157 747 €. Remboursement d'emprunt, 13 700 €. Opération de transfert entre sections, 25 398 €. Soit au total, 196 845 €. Pour les recettes d'investissement, opération de transfert entre sections 54 733,32 € et l'excédent reporté 142 111,68 €, soit un total de 196 845 €.
Merci, M. Garimas. Cette publication, les observations, je passe au vote. Qui s'abstient? Un qui stagiaire ensemble, on n'a pas vu. Qui est contre? Madame Sonia, contre ou abstention? Contre?
Abstention.
Abstention? La liste n'a pas vu espoir abstention. Vote à la majorité, je vous remercie. Deuxième délibération, vote des subventions des associations pour l'année 2021, Madame Anne-Marie Souleton.
Merci, M. le maire. Avant de commencer, je voudrais juste dire un petit mot. Alors, pour rappel, en 2019, le conseil municipal a décidé de verser 51 000 euros d'aide à nos associations. En 2020, c'est un peu plus de 35 000 euros qui a été attribué. Certaines associations nous ont contactés pour nous indiquer qu'elles ne souhaitaient pas d'aide pour cette année, car elles avaient reçu en 2020 une subvention qu'elles n'ont pas utilisée du fait de leur non-activité. Je les remercie pour leur annonciation. Suite à cet état, nous avons analysé les demandes des autres associations et nous avons pris contact auprès de plusieurs d'entre elles. Certaines nous ont alors indiqué renoncer à cette aide pour 2021. Je les en remercie vivement. Je tiens toutefois à les citer. L'Amicale du personnel communal, Arpège en Provence, l'association Noël, le Valtrap, Éveil Vie Énergie, le Football Club Vétéran, Gym Attitude, les Amis des Anciens, les Choupinés, les Fuseaux Lapaluciens, MAM Baby Boom, Martial Art Academy, Mini Flotte, le club de ping-pong et le volley-ball. Une autre partie des associations a consenti à baisser le montant demandé du fait de l'absence d'activité en 2020 et sur début 2021. Il s'agit de l'AFMA, la Boule Dorée, le club de tarot, l'USL et l'association Saint-Pierre. Je les remercie aussi. Pour attribuer ces montants, nous avons bien pris en compte les charges obligatoires supportées par nos associations, telles que les assurances. D'autres associations n'ont pas été contactées du fait de leur intérêt local. Compte tenu du contexte sanitaire et de ses effets négatifs, nous vous proposons d'augmenter exceptionnellement la subvention de certaines associations caritatives afin de faire face à l'accroissement de leur activité. C'est notamment le cas de la Croix-Rouge, du Secours Populaire et des Restos du Cœur. De manière exceptionnelle, je vous propose aussi d'augmenter la subvention de l'AFM Téléthon, qui n'a pas pu générer de bénéfices en 2020 lors de la traditionnelle manifestation pour laquelle la commune est partenaire. Dès que la situation sanitaire permettra à nos associations de fonctionner normalement, nous les accompagnerons comme nous nous y étions engagés. C'est pourquoi je vous propose d'attribuer les subventions comme inscrites au budget 2021. Je vais peut-être les citer. Concernant les associations sportives lapaluciennes, pour un total de 9 050 euros, les associations culturelles et caritatives, pour un total de 18 260 euros, les associations extérieures, 2 850 euros, et les subventions exceptionnelles, pour 550 euros.
Des questions ou des observations hein? Monsieur Grappin, Madame Fraisse.
Je voudrais juste avoir un petit complément d'information. Très bien, effectivement, qu'on ait favorisé les subventions exceptionnelles pour la Croix-Rouge, la Cité du Cœur, la Secours Populaire, la situation économique aujourd'hui. La question est, en fait, une bonne économie, entre guillemets, par rapport à ce qui a été versé précédemment, est-ce qu'on aurait pas pu abonder un petit peu plus que 100 euros, sachant que dans la commune, il y a quand même beaucoup de demandes au niveau de la Croix-Rouge, du Secours Populaire, pour des besoins notamment alimentaires, sauf si peut-être le CCS vient faire des compléments supplémentaires, je ne sais pas.
Oui, on aurait pu augmenter. Mais peut-être que lui sera plus à même de répondre à cette question.
Au niveau du CCS aussi, il y a des bons alimentaires aussi qui se font. On aide aussi.
On abonde aussi ouais. Voilà, à ce niveau-là, au niveau du CCS. Mais si les besoins s'en fait sentir, il n'y a pas de raison qu'on ne reverse pas une subvention exceptionnelle. Si toutefois le Secours Populaire nous en fait la demande, éventuellement, il n'y a pas de souci. Hein. On s'est engagé à accompagner les associations. Là déjà, nous avons abondé dans ce sens-là sans qu'ils nous le demandent.
Après,
oui.
On a. Par contre, on a demandé quand même à la Croix-Rouge et puis au Secours Populaire s'ils avaient besoin. Et ils nous ont dit qu'ils avaient énormément de dons. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de gens aussi qui veulent aider. Donc pour l'instant, ils n'avaient pas non plus de nécessité.
Oui, on a souvent salué, vous l'avez salué, hein, parce que c'était Madame le maire, si votre domaine de compétence, hein, la richesse de notre tissu associatif et le montant que vous avez, qui a pu être accordé sur les années précédentes, 2019, que vous avez rappelé. En témoigne, vous voulez aussi laisser démontrer que chacun, dans son domaine de compétence, a pu utiliser tous les moyens financiers de la commune sais pas si c'est ce qui construit ou rouge que j'ai pas vu, mais donc bien évidemment on vous suivra sur le vote de ces associations. J'entends votre propos. Il me semble que pour certains d'entre elles, sans doute que si on a réussi à les convaincre de dire demandez pas trop, on vous en donnera un peu moins. On peut argumenter et je n'en fais pas un cas général. Je veux simplement dire ici, c'est que ça ne nous aurait pas choqué, ça ne m'aurait pas choqué qu'on vienne attribuer pour des associations qui ont un rôle important et qui demain auront un rôle important quand la vie va reprendre, et tout le monde nous annonce possiblement qu'à partir du mois de mai, on pourra commencer à revoir le soleil, et je pense à toutes ces associations qui interviennent auprès des jeunes, etc., qui sont depuis plus d'un an à rien faire, et que de pouvoir dire, c'était aussi l'occasion de pouvoir leur donner ce coup de pouce. Il n'est pas là, mais voilà, juste pour nous dire que ça ne nous aurait pas choqué. Ce qu'on peut craindre, et vous avez cité les associations qui aujourd'hui qui ont donné plus rien, certaines se sont mises en sommeil. Je ne voudrais pas que demain, à la faveur de ces aspects-là, et si on ne leur donne pas le petit coup de pouce supplémentaire, elles ne se retrouvent pas dans des situations difficiles. Je veux reprendre l'exemple de l'USL. Hein. Si je me souviens à un moment donné, M. Sarbeau pourra répondre ou d'autres, hein, il y avait des demandes de l'association d'être accompagné au travers d'un contrat civique, etc. Je ne sais pas où il en est. Mais si demain ça sort, ça veut dire qu'il y a des besoins qui vont être exprimés. C'est qu'à un moment donné, si on doit être là sur une dynamique, et que si on avait dû donner davantage à l'USL, si on avait donné davantage à la Boule Dorée, si on avait donné davantage à la Panthée, c'est-à-dire des associations qui aujourd'hui mettent en exergue ce qui se passe dans le village au travers de leur dynamique, de leur accompagnement, voilà, ça ne m'aurait pas choqué. Donc, s'il fallait revoir ces éléments-là budgétaires, alors, je dirais que le montant que vous avez inscrit au budget entre les situations classiques et exceptionnelles, on est à 35 000 euros, c'est pas loin d'être tout consommé. On n'aurait pas choqué qu'on diminue les dépenses de personnel et qu'on vienne aborder un peu plus ce qui va faire la vie du village de demain.
Alors, c'est pour ce que je vais répondre, parce que j'ai travaillé 12 ans, j'ai été délégué pendant 12 ans à la vie associative. Alors, expliquez-moi. Pourquoi augmenter les associations qui sont les premières à dire on n'a pas besoin de ces sous cette année, étant donné qu'on n'a pas eu d'activité, première chose. Deuxième chose, l'année dernière, il y a une décision du maire, parce que ce n'est pas passé à un conseil municipal, on va le dire à Madame Patibonis, là je critique le maire, parce que je suis désolé, mais voilà. On aurait dû critiquer le maire, hein, s'il n'avait pas démissionné, il n'y aurait pas de problème. Il en aurait pris aussi pour son grade. Pour la décision du maire l'année dernière, on a redonné des subventions exceptionnelles à des associations sur une hauteur de, je ne sais même plus
combien,
7 000 euros, alors qu'on ne devait pas les donner. Alors, c'est sûr qu'à l'époque, vous aviez des sous à foison, on avait des sous puisque je faisais partie à l'époque de l'équipe, on avait des sous à foison et on dépensait à outrance. Donc vous n'avez même pas fait attention à regarder les subventions exceptionnelles alors qu'il n'y avait pas lieu de leur redonner des sous là-dessus. Voilà. Deuxième chose, c'est pas nous qui descendons les subventions, loin de là, parce que l'année prochaine, je m'y engage en tant que maire, l'enveloppe sera la même qu'il y a eu, si bien sûr la crise sanitaire nous le permet, et si le Covid se finit. L'enveloppe budgétaire pour les associations sera exactement la même qu'ils avaient, voire plus s'il y a des projets ou autres. Vous savez très bien comment ça fonctionne. Chaque année, je demandais un dossier de subvention et je crois que sur toutes les associations de la Palucienne, à chaque fois, on regarde leur manque et leur comptes qui sont marqués sur des dossiers. Et jusqu'à là, j'ai jamais eu une critique sur les associations me disant qu'on les avait mis dans le rouge, loin de là, par rapport à certaines. Je comprends pas. Et par rapport à ce que me disait Madame Fraisse-Alexandrine, on a augmenté, c'est sûr que vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Hein. Mais après, à quel niveau on s'arrête? C'est-à-dire que autant on aurait mis 200 euros de plus, vous me l'auriez dit. Ah ben ouais, mais c'est pas assez. Si on avait mis 500 euros de plus, ah ouais, mais c'est pas assez. Et si j'avais mis, si on avait mis 800 euros de plus, vous auriez dit, mais pourquoi vous avez mis autant alors que vous dites que vous n'avez plus de sous. Donc, à un moment ou à un autre, je trouve qu'à part égale, on a essayé d'être le plus judicieux et le plus neutre possible.
Oui, je voudrais quand même rajouter un mot, c'est que bon, vous dites que l'ISL, ils auraient peut-être eu besoin d'un coup de pouce. Or, l'année dernière, ils ont eu des subventions de fonctionnement, plus des subventions exceptionnelles, et il n'y a pas eu de concours. La boucle dorée, c'est la même chose. Ils ont eu des subventions de fonctionnement, plus des subventions exceptionnelles, qui n'auraient pas dû être versées, et il n'y a pas eu de concours non plus. Donc, c'est elles qui se sont rapprochées de nous aussi, pour nous dire, bon, voilà, ben non, nous, on n'a pas besoin d'autant. Et l'amicale, j'ai déjà cité, l'amicale du personnel communal spontanément nous a dit non, nous n'en veut pas, on n'a fait aucune activité. Alors bon, je veux dire, voilà, nous on a fait au plus juste, elles savent les associations que nous sommes là, elles savent que nous accompagnerons. Donc je ne vois pas ce qu'on pourrait faire pour satisfaire.
Je passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, vote à l'unanimité, je vous remercie. 14e délibération, transfert de la compétence transport et mobilité, modification des statuts de la communauté de communes Rodez-Provence. Rapporteur M. Jean-Pierre Lambertin, qui est aussi vice-président à l'intercommunalité de cette compétence.
Merci. De quoi s'agit-il? La loi donc, du 24 décembre 2019. D'orientation des mobilités prévoit que d'ici le 1er juillet 2021, la couverture intégrale du territoire national à l'autorité organisatrice de la mobilité locale. En effet, jusqu'à présent, seules les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et métropoles étaient obligatoirement autorités concernant la mobilité. Les communautés de communes, elles, pouvaient faire le choix d'exercer cette compétence, mais de manière facultative. Ensuite, dorénavant, chaque communauté de communes, puisque la loi demande cela, devra faire le choix de prendre la compétence donc, d'autorité organisatrice de la mobilité ou d'en laisser l'exercice à la région. Donc, il se trouve que l'intercommunalité, ça a été discuté à l'interco, et l'intercommunalité a d'ailleurs, je vais y revenir après, a délibéré, donc, et on s'est tous mis d'accord au niveau des communes pour dire on prend cette compétence, parce que on s'est rapproché un petit peu de la région pour avoir des informations du côté de la région. Si la région conserve cette compétence, la région a indiqué qu'elle ne mettrait pas un centime supplémentaire au niveau des différentes actions qui peuvent être menées en termes de mobilité ou de transport. Donc, contrairement à certaines régions, comme la région Rhône-Alpes en particulier. Donc, c'est la raison pour laquelle l'intercommunalité a décidé de franchir le pas et qu'on prenne cette compétence. Mais donc, il faut... Donc les communes, maintenant, se prononcent, l'intercommunalité s'étant prononcée, pour que ce transfert soit effectif au 1er juillet, il doit être recueilli l'accord du conseil communautaire, donc ça a été fait, et des deux tiers au moins des conseils municipaux, des communes représentant les deux tiers de la population, et l'accord de la commune dont la population la plus nombreuse est supérieure au quart de la population totale concernée. Les conseils municipaux... Donc, avait donc trois mois pour se prononcer, mais il faut que se prononcer avant le 1er juillet. Donc, ce transfert interviendra à ce moment-là. Alors, qu'y a-t-il dans ce transfert de compétences qui entraîne donc la modification des statuts de la communauté de communes? Donc, il s'agit d'intégrer dans l'article 5 des compétences de l'Interco en matière de transport et mobilité, donc suivi, gestion et coordination des services organisés par chacune des communes à la date du transfert. mise en place d'un système d'information à l'intention des usagers, recherche d'une tarification coordonnée et des titres de transport uniques ou unifiés, réflexion, études de faisabilité, passation de conventions, mise en place, passation des marchés et des contrats, suivi et gestion des services de transport réguliers de voyageurs. Réflexion, études de faisabilité, passation de conventions, mise en place, passation de marché et de contrats, suivi et gestion des services de transport à la demande d'aide à la mobilité. Réflexion, études de faisabilité, passation de conventions, mise en place, passation de marché et de contrats, suivi et gestion des services d'autopartage, de covoiturage et des infrastructures correspondantes. Ensuite, réflexion, étude de faisabilité, passation de convention, mise en place, passation de marché de contrat, dans le cadre du suivi et gestion des services de mobilité douce, comme le vélo, les infrastructures correspondantes, voies et pistes cyclables, par exemple. Ensuite, dernier point, réflexion, étude de faisabilité, passation de convention, mise en place, passation de marché, dans le cadre de suivi et gestion des services pour les aides directes à la mobilité. Voilà donc ce qui est proposé donc, de prendre donc, dans les nouvelles compétences de l'Interco. Donc le Conseil communautaire a délibéré en date du 16 février 2021 et a approuvé donc, le transfert de la compétence transport et mobilité entre les communes et la communauté de communes et d'autre part la modification des statuts de la communauté de communes. Ce qui vous est proposé ce soir aux membres donc, du conseil municipal, c'est d'approuver donc, le transfert de la compétence transport et mobilité entre la commune de La Palue et la communauté de communes, et d'autre part la modification des statuts de la communauté de communes.
Des questions, des observations?
Oui, bien évidemment, on votera ça de la façon que je l'ai voté à la communauté de communes.
Ça va faire peur.
Oui, nous aussi.
Allez-y, monsieur.
Bien évidemment, vous l'avez voté, c'est qu'aujourd'hui, on craint fortement que la région, si on lui laisse les manettes, risque de ne pas être présente.
C'est ça.
Et que je serais tenté de dire que la commune de La Palue n'a sans doute pas grand-chose à craindre financièrement dans le transport de compétences, puisque la commune n'exerçait que peu de choses au minimum, et qu'on a tout y gagné. Et je dis on a tout y gagné, pour autant que la communauté de communes enfin, ait les fonds et la volonté de mettre en œuvre des actions, et j'en vois au moins trois, hein, on entend souvent, hein, c'est à la fois comment les habitants de La Palue peuvent demain avoir une desserte qui leur permet de rejoindre la gare SNCF, comment demain les Lapaluciens peuvent avoir une desserte qui va permettre d'aller chercher la, au moins la ville-centre Bolède, hein, si ce n'est notre région. Et puis la question sur la Via Rona, puisqu'elle est demain au cœur de notre territoire. Et je voudrais juste faire un petit retour en arrière et au travers de votre DOB hein, où étaient prévues des dépenses d'investissement sur la signalisation Via Rona pour 3 000 euros. Il me semble que ça ne doit plus être sans doute porté par la commune, mais bien par la communauté de communes au regard de ce transfert de compétences qui vient d'être opéré. Mais bien évidemment, donc on vous suivra sur ces aspects-là et les Lapaluciens sont bien évidemment, je pense, en attente de ces aspects-là hein, au regard de tout ce qu'on connaît. De la population, les difficultés et notre territoire qui est sans doute un petit peu, on regarde la situation au bout de la région en attente de cet élément-là.
Bien, avec ce qui a été évoqué, je crois que ce sont les objectifs de l'intercommunalité, donc on est tout à fait d'accord, sauf, je mettrai un petit bémol sur la Via Rona, puisque à l'intercommunalité, il m'a été répondu que la Via Rona, donc c'était l'affaire des départements, et que il ne pensait pas que ça rentre dans la compétence. Voilà. Donc, on va vérifier tout cela.
Oui, je suis d'accord avec M. Martin, effectivement, enfin, dans son axe nord-sud, mais ça serait quand même dommage que la communauté de communes ne soit pas capable d'assurer toute la part de connexion entre la Via Rona et le cœur du village, et que, entre guillemets, on a une autoroute vélo et que la communauté de communes nous dise « Commune, débrouillez-vous de cette jonction-là alors que on est sur un projet qui vise à s'investir. » Voilà.
On a même proposé déjà à Bolène de prolonger jusqu'à Paris. Et voilà, donc avec ça, on est en train de travailler avec Bolène et avec la CNR aussi en particulier.
Quoi qu'il en soit, pour la Pierre-Bonnat, on est déjà sur un projet pour que les vélos arrivent sur la Palue. Donc, autant ça, on fera l'avance et ensuite ils nous rembourseront du temps, je ne sais pas comment ça fonctionnera. On verra, on essaiera de négocier avec l'intercommunalité, et on ne peut pas attendre trop de temps. L'été approche à grands pas, et c'est vrai que si nous pouvons avoir les vélos qui arrivent sur la Palue, qui traversent la Palue, qui vont jusqu'au lac de Gérard, et voir ensuite passer par la CNR et aller jusqu'à Paris par cette bretelle, ça serait un bien pour notre territoire et un bien pour notre village. Passe au vote, qui s'abstient, qui est contre, vote à l'unanimité, je vous remercie. Deuxième déclaration, approbation de la convention de gestion de l'établissement de l'enseignement préélémentaire et élémentaire aux communes d'intérêt communautaire entre la communauté de communes Rhône-Est-Provence et la commune de La Palue. Madame Césarine Sauvadon.
Le conseil municipal est appelé à délibérer sur le projet de convention de gestion des équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire aux communautés d'intérêt communautaire entre la communauté de communes Rhône-Est-Provence et la commune de La Palue. Il est rappelé à l'Assemblée délibérante que la communauté de communes Rhône-Est-Provence exerce depuis le 9 juillet 2018, en lieu et place des communes membres, la compétence construction, aménagement, entretien et gestion des équipements d'enseignement préélémentaire et élémentaire des communes, la communauté de communes. Il est précisé que la présente convention porte sur l'entretien technique des équipements concernés, intérieur et extérieur, petite réparation, maintenance curative, et non pas le nettoyage des locaux. Donc, vu la délibération de la communauté de communes Rhône-Est-Provence du 9 mars 2021 relative à la mise en place d'une convention de gestion des équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire des communes d'intérêt communautaire, considérant que certaines communes souhaitent assurer la maintenance et l'entretien technique courant des équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire, ces missions n'ayant pas donné lieu à transfert de personnel, considérant qu'il convient de mettre ainsi en place une coopération entre la commune de La Palue et la communauté de communes, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'une part d'approuver la convention de gestion et d'autre part à autoriser M. le maire à signer cette convention.
Merci. Des questions ?
J'avais une question, c'est d'ailleurs, dans l'annexe 10, je voyais que la communauté ne rembourserait pas la rembourser au maximum de 39 915 euros.
Oui, tout à fait. Donc,
dans le cas où le montant excède cette somme, qui va prendre en charge ou pas, et éventuellement, est-ce que ça va être suffisant?
Ah ben, donc le montant de 39 000 euros, c'est le montant qui a été convenu quand il y a eu le transfert de compétences en 2018. Qui a été estimé à 39 000 euros. Donc, ben, s'il est réévalué aujourd'hui, ben, j'espère pas trop, ça voudrait dire qu'à un moment donné, peut-être qu'il a été sous-évalué en 2018. Donc, parce que là, c'est vraiment du petit entretien. Donc, c'est du changement d'ampoule, c'est réparer un portail. Voilà. C'est vraiment du petit entretien. J'espère.
Oui, juste pour venir préciser, hein, et pour le coup, cette question, mais je n'avais pas mesuré tous les éléments, mais on a travaillé un petit peu dessus dans cette équipe et ceux qui ne sont pas autour de la table, mais qui travaillent. Juste rappeler que ce montant-là, tel qu'il a été défini, les 39 000 que vous évoquez, c'était le montant des dépenses constatées sur la période 3 ans en avant. Et ce qui est à craindre, hein, et notamment au travers des aménagements qui ont été faits dans l'école, etc., le coût des obligations réglementaires, c'est que ce montant-là soit, ait beaucoup de chances d'être en augmentation par rapport à ce qu'il était. Donc, du coup, j'ai, Ben, j'ai du mal à comprendre. Enfin, aujourd'hui, on est bien dans une situation où on avait transféré cette compétence dans sa totalité à la communauté de communes, à la fois pour ce qui concerne. Elle est compétente pour tous les gros travaux, elle est compétente pour les travaux petits, moyens, je ne sais pas où ça reste, les petits moyens, et le volet nettoyage. Et dans le cadre de la formation, vous excluez bien le volet nettoyage. Ça veut dire, si on le traduit aujourd'hui, c'est toute intervention qui doit être faite sera faite par du personnel de la mairie de la Palue. Alors, sans doute, vous considérez que les agents de la commune sont plus réactifs que les agents de la communauté de communes, et ça, je peux l'entendre, mais ça sous-entend du coup, enfin, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que le personnel mairie, qui aujourd'hui n'avait pas de personnel mairie affecté à ça, on va venir l'affecter, et tout à l'heure, on va voir qu'on va aussi l'affecter à la collecte des encombrants. Donc, on est en train de, je serais tenté de dire un peu aujourd'hui, ce que je crains, c'est qu'on détricote les choses que devait faire la communauté de communes, et que si la communauté de communes n'est pas réactive, c'est sans doute à elle de le revoir, parce que dans le même temps, le personnel qui est affecté à la communauté de communes ne va plus venir intervenir. Ce que je crains fortement, sauf à ce qu'une évaluation ait été faite, c'est que ce montant qui a servi de base sur la base des dépenses 2016, 2017, 2018 ne soit pas suffisant et qu'on se retrouve à la fin à dire « Ah, soit on se limite à ce montant-là, et du coup, on vient ne pas servir un certain nombre de prestations qui peuvent être exigées à la fois pour le confort des enfants, des enseignants, mais parce que les réglementations ont évolué. Ou alors on est sur des montants supplémentaires, et c'est ce qu'évoquait Samira, c'est que du coup, c'est la commune qui va le prendre en charge, sauf à ce que les moyens soient réévalués, et on peut craindre que les évaluations de la CLEC ne soient pas réévaluées dans de nombreuses années. J'entends le volet de réactivité possible, mais il me semble qu'on aurait pu le réguler avec des interventions à mieux encadrer entre la commune et la communauté de communes. Alors, j'entends bien, il y a deux communes qui ont fait ce choix-là, les autres non. Mais je crains que l'incidence financière directe, si on dépasse ce montant-là, mais aussi cette incidence financière indirecte, parce que pendant que nos agents, ils sont compétents, seront là, ils ne seront pas ailleurs. Et quand on les mettra à la fois dans les écoles, quand on les mettra à la fois derrière la collecte des encombrants, enfin, tout ce que attend les services, à un moment donné, on va se dire, ben, il manque un agent, il en manque deux, et on va venir recruter, alors que pendant ce temps-là, on a du personnel à l'interco. Il me semble que ce n'est pas le choix cohérent, je l'entends en termes de réactivité, mais il me semble qu'il n'est pas aujourd'hui sans doute judicieux en termes de finances.
Alors, il y a un problème de réactivité, d'une. Et même si les services d'interco intervenaient, le responsable de nos services techniques y allait quand même. Donc, dans tous les cas, il y allait. Donc, on ne peut pas laisser des enfants parce qu'il y a une ampoule qui a grillé et qu'on ne peut pas attendre 48 heures. C'est pas possible. Un portail qui ne ferme pas. Voilà. Donc, après, pour moi, on n'est pas là pour faire des économies sur le dos des enfants. Voilà. Donc, pour moi, là, pour l'avoir vécu pendant 6 mois, c'est la meilleure solution.
C'est juste pour réagir, et ça sera très court, hein, mais j'entends votre propos, sur la norme, mais de la même façon que j'imagine M. Robin, ou des inquiétudes qu'il doit avoir quand il va gérer l'ensemble de son personnel, c'est que si on est véritablement dans un sens de dire on ne fait pas d'économie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, au regard de ce qui a été conclu entre la commune et la communauté de communes, s'il devait y avoir 90 000 euros de dépenser par la communauté de communes parce que c'est nécessaire au regard des investissements, la communauté de communes aurait dépensé les 90 000 euros et. Quand bien même, on s'est engagé sur ce montant de 30 000. Donc, il me semble que, j'espère pour vous que derrière, vous arriverez à bouger. Il me semble que ce n'était pas aujourd'hui ce qui est le plus rationnel. Alors, je peux l'entendre sur un délai court. Voilà. Est-ce que c'est rationnel, raisonnable de s'engager dans la durée? Ça ne me semble pas.
Je ne vous comprends plus. Enfin, vous êtes très fort, M. Gravel, parce que déjà, vous n'avez pas piqué le mot au Conseil communautaire. J'aurais aimé que vous disiez tout ça au Conseil communautaire.
Mais
vous n'avez rien dit, vous êtes tué. Alors, je voulais rien dire parce que c'était pas. J'avais pas envie de le dire, mais je vais le dire quand même. Vous savez très bien que nos AC ne sont pas très confortables sur le camp communal. Et vous savez très bien, puisque vous étiez à la CLEC, M. Grappin, vous ne pouvez pas dire le contraire non plus, vous étiez titulaire à la CLEC. Et le gros problème qu'il y a, c'est que par rapport à l'AC, c'est vous, M. Grappé, encore une fois, parce que vous faites encore faire passer la nouvelle majorité pour des nullards, parce qu'ils n'ont pas négocié le truc. C'est vous qui avez fait ce système-là d'être à cette somme qui a été dite, tout simplement, parce que dans la logique, ça aurait été une augmentation, d'accord, de cette somme. Et on aurait eu beaucoup moins en assez. Donc, c'est encore une fois de plus. On essaiera de négocier les erreurs qu'il y a eu sur le mandat dernier, mais arrêtez de j'arrive pas à vous comprendre. Pourquoi vous ne l'avez pas dit? Alors, vous expliquez que vous voulez faire partie de la majorité du conseil communautaire, et après vous critiquez ce qu'on est en train de faire au CODER. Quoi qu'il en soit, mardi au CODER, je vais en parler, je signalerai vos demandes, et on verra qu'est-ce qu'ils vont dire. Je passe au vote.
Juste, monsieur Flaugère, vous rappelez, vous étiez suppléant de la
presse.
Je vous laisserai regarder le PV que vous avez validé. Je vous laisserai le soir, votre DGS le fera très bien, monsieur Garrigance le fera très bien, vous expliquer comment c'est calculé les éléments de l'ATLEC. Et si ces montants-là sont sortis, c'est que c'est bien sur la base de l'ensemble des factures qui ont été produites. Et que c'est pas le grand-père qui, derrière, a défini le montant de l'AC, mais c'est bien l'ensemble sur la base de tout ce qui a été mis en œuvre par un produit.
Je ne crois pas parce que alors il y a beaucoup de menteurs.
Moi je ne comprends pas non plus, M. Grappin, vous jugiez les propos ou la décision d'irrationnel alors qu'on parle de sécurité des enfants. Alors votre vision de la rationalité, je ne comprends pas du tout.
J'ai parlé de rationalité financière, mais,
oui,
mais vous avez le droit. Vous avez le droit d'estimer que vous avez le droit d'estimer que on s'engage à ne pas dépenser plus de 48 euros. Mais vous avez le droit. J'ai le droit de ne pas être, j'ai le droit de pas être d'accord sur la vision.
Monsieur Grappel, laissez finir. Monsieur Paré, ensuite vous prendrez la parole. On est en démocratie.
Aussi, on vous éclaire dans certaines choses. Voilà. Ensuite, vous dites qu'on le critique. Bon, je pense que lui, il ne se gêne pas non plus, et notamment pour nous assigner au tribunal. Alors, des fois, il se retire quand il s'agit de handicap, bien heureusement, hein. Mais bon, voilà. Après, il y a peut-être des raisons aussi.
Toutefois, moi, ma question était toujours dans le sens sécurité enfant, hein, bien sûr, parce que je m'inquiétais si, parce que bon, dépenses imprévues, malheureusement, et si demain, vu la situation, vous vous retrouvez à payer 60 000 euros au lieu de 40 000
mais
qui va payer la différence.
Un exemple tout bête. La cour de Pergaud a été refaite. Donc le terrain de foot et un abri pour une pompe. Quand on est arrivé, on a fait le tour. Ça a été enduit trois côtés. Il y en a quatre. Ben, le côté qui ne se voyait pas, il n'a pas été enduit. Mais on a payé. Et on n'a pas vérifié. Donc moi, quand je vois des choses comme ça, il y a des choses que je ne comprends pas. Et on ne peut pas laisser faire ce genre de choses. Voilà, donc c'est une il y a ça. Mais on voit que les enfants, il y a un aspect sécuritaire. Les aspergeurs pour le terrain de foot, ben, ça doit se rentrer et sortir. Ben, ils sont restés à l'extérieur. Ils restent à l'extérieur. Demain, il y a un enfant qui se prend le pied dedans. On joue en fait. Voilà. Moi, c'est juste pour ça.
Allez, je passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Pas. Qui s'abstient, monsieur Grappé? Qui est contre? Contre la majorité, je vous remercie. cette délibération approbation de la convention de mise à disposition d'un agent communal de la commune de la Value auprès de la commune de la Monturotte dans le cadre de la collecte des encombrants. Monsieur Robert.
Merci, monsieur le maire. Le conseil municipal est appelé à délibérer sur le projet de convention de la mise à disposition d'un agent communal de la commune de la Vallée auprès de la commune de la Motte-du-Rhône. Dans le cadre de la collecte des encombrants, la collecte des encombrants effectuée jusqu'à présent par la communauté de communes est effectuée à la demande de la communauté de communes par les communes à compter du 1er avril 2021. Les communes de la Vallée et de la Motte-du-Rhône ont fait le choix de réaliser ensemble sur leurs deux communes l'enlèvement des encombrants. Afin de mutualiser leurs moyens, la commune de La Palume et M. Johan Valentin, technicien territorial à la disposition de la commune de La Motte-du-Rhône, pour la collecte des encombrants, à raison de 77 heures par an maximum, les 77 heures ont été déterminées de la manière suivante. La journée de collecte est fixée à 7 heures. Il y a 11 tournées dans l'année. Ces collectes auront lieu tous les premiers jeudis de chaque mois, sauf en juillet et en août. Une seconde collecte aura lieu à la fin du mois de juin pour pallier au mois de juillet et au mois d'août. Vu l'accord de l'agent concerné pour la mise à disposition, considérant que la collecte des encombrants effectués jusqu'à présent à la CCRLP sera désormais effectuée par la commune à la demande de la CCRLP, considérant que la commune de La Palue et la Motte-du-Rhône ont fait le choix de réaliser ensemble sur leurs deux communes l'enlèvement des encombrants afin de mutualiser leurs moyens, il est proposé la mise à disposition de M. Johan Valentin, adjoint technique territorial auprès de la commune de la Motte-du-Rhône. 1er avril 2021 pour une durée de 3 ans à hauteur de 77 heures maximum par an pour assurer la collecte des encombrants. Conformément au décret 2008-580 du 18 juin 2008, cette mise à disposition est opérée à titre onéreux. Les modalités pratiques et financières sont précisées dans la convention. Il sera proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la convention et de mise à disposition d'un agent de la commune auprès de la commune de la Motte-du-Rhône du 1er avril 2021 au 31 mars 2024 pour assurer la collecte des encombrants indiqués en présence des délibérations. D'autoriser M. le maire à signer toutes les pièces relatives à l'exécution de la présente délibération.
Y a-t-il des questions ? Des observations. Monsieur Frappé.
Oui, je vous permettrai que dans mon propos, je prenne à la fois cette question et la suivante, puisque on est sur le même dispositif, mais en inversé. Hein. Et tout d'abord, M. Robert, vous saluer pour votre travail, parce que je sais que l'implication que vous y mettez et que vous êtes sans doute un des premiers élus qui sont sur le terrain tous les matins. Et dans le même temps saluer l'ensemble des services techniques au regard de ce qu'ils font aujourd'hui et de ce qu'ils vont être amenés à faire, parce qu'on vient de voir sur la question précédente qu'ils allaient intervenir en lieu et place de la communauté de communes pour l'entretien des bâtiments scolaires. Et là on est en train de, alors pas détricoter puisque c'est la singularité de la collecte des encombrants, où sur le territoire de CCRLP depuis longtemps tout le monde a considéré que la collecte des comptes aux encombrants n'était pas un déchet classique et que sans qu'on le relève dans le transfert des compétences, on le redonne aux communes, quand bien même, quand les évaluations de collecte avaient été faites, ce qui servait au service était pris en compte. Donc pour traduire ça pour l'ensemble des gens de la presse, on est sur le fait que la commune de La Palue va s'associer avec la commune de La Motte pour assurer la collecte des encombrants à la fois sur le territoire de La Palue et sur le territoire de La Motte, au travers de 11 jours par an. Et qu'un agent de La Palue est mis à disposition, de l'aspect c'est de mettre un double équipage. Un agent de La Palue va aller avec un agent de La Motte pour collecter les encombrants sur le territoire de La Motte, et un agent de La Motte va venir avec un agent de La Palue pour collecter les encombrants sur le territoire de la commune de La Palue. On est sans doute très gentil avec la commune de la Motte et on sait aussi ses insuffisances, parce qu'on peut imaginer qu'on passe plus de temps à collecter les encombrants sur la commune de la Palue que sur la commune de la Motte, mais on fait des mises à disposition sur le même temps. Soit. Là où je suis, je n'ai pas la réponse à la question, mais elle viendra sans doute derrière, c'est là on parle des moyens humains, qu'en est-il demain des moyens matériels, camions, etc. Voilà. Donc on vous suivra sur cet aspect-là, parce que la communauté de communes ayant fait le choix de dire, je ne sais pas s'il y a eu de la discussion ou pas de discussion, mais les communes se retrouvent au pied du mur. Voilà, je m'inquiète encore un peu plus pour l'état, la mobilisation de nos agents qui vont encore se retrouver là-dessus, et la nécessité qu'on soit clair avec les habitants qui pourraient ne pas comprendre. Hein, on va avoir des camions de la communauté de communes qui viennent collecter les poubelles, des camions de la commune qui viennent collecter. On est sur la même chose en train le nettoyage des abords des points d'apport volontaire. Ben, je suis un petit peu. Je pense qu'il y a de la clarté à mettre dedans et je crains qu'au travers de ça, la commune de la Palue supporte, mais comme les autres communes, plus qu'elle ne le supportait précédemment.
Je passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Vote à l'unanimité, je vous remercie. 17e délibération, approbation de la convention de mise à disposition d'un agent communal de la commune de La Motte-du-Rhône auprès de la commune de La Palue dans le cadre de la collecte des encombrants.
Merci, M. le maire. Cette délibération est identique à la précédente, sauf que l'agent technique territorial, c'est la commune de La Motte-du-Rhône, qui s'appelle M. Jacques Aubert, agent technique territorial et à disposition de la commune de La Palue pour la collecte des encombrances en raison de 77 heures par an, soit, comme j'ai cité tout à l'heure, pour celui de la Palue. Et donc, il sera proposé au membre du conseil municipal d'approuver la convention et mise à disposition d'un agent de la commune de la Motte auprès de la commune de la Palue du 1er avril 2021 au 31 mars 2024 pour assurer la collecte des encombrants annexés à la présente délibération. Et l'autorité, monsieur le maire, a signé toutes les pièces relatives à l'exécution de la présente délibération. Et je voulais répondre à monsieur Carin, par la même occasion. C'est vrai que la personne de la Motte est seule, parce que bon, on l'a rencontré, je l'ai rencontré, et il m'a dit qu'il était seul pour lever des charges lourdes. Et ça le faisait, donc c'est pour ça qu'on a trouvé un accord avec eux. Pour nous, je trouve que c'est bien, c'est un plus. Ça permet qu'eux ils aient une deuxième personne pour cette activité, malheureusement, qu'ils sont obligés de récupérer comme nous. Et ça nous permet d'être deux dans les cubes. Voilà.
Y a-t-il des questions? Des observations? Aucune? Bien soit, c'était une demande de l'intercommunalité et mon dragon Mornas Bolin était entièrement d'accord. Et c'est pour ça que nous, à la Palue, nous avons donné aussi notre accord puisque nous sommes une majorité sur l'intercommunalité. Et la Motte a dit aussi. Et monsieur Robien vient de dire exactement pourquoi. Je ne voyais pas monsieur Aubert apporter un canapé tout seul, ça peut être évident, ou un autre objet assez beau. Voilà. Je passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Vote à l'unanimité, je vous remercie.
La première collecte a eu lieu le 1er avril.
Tout à fait.
N'était pas en relation.
Non. Merci. 18e délibération, déploiement des plans communaux de sauvegarde des communes membres de la communauté de communes Rhône-Est-Provence, convention de cadre de mise à disposition de matériel entre les collectivités en cas de crise, suite donc au vote du conseil communautaire du 16 février. Il est demandé de délibérer pour la convention cadre de mise à disposition de matériel entre les collectivités en cas de crise, tout ce qui est aléa climatique, risque technologique ou autre. Y a-t-il des questions, des observations? Aucune. Je passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. 19e délibération, cession d'une parcelle de terrain communal cadastrée à 673 en site de Pierre Latte. Monsieur Jean-Pierre Lambertin.
Oui, monsieur le maire, chers collègues, il s'agit de délibérer sur la cession d'une parcelle de terrain communal, section A, numéro 673. Donc, je précise que en 2003, il y avait eu un morceau qui avait été déjà rétrocédé. Ça concerne monsieur et madame Pérez, qui ont sollicité la commune pour cette acquisition. Donc, c'est l'ancien canal d'irrigation de Pierre-Latte, qui est donc cadastré, comme j'ai dit, en 673, pour 1 ar 71 centiards, donc qui est situé donc vers le chemin des Aubépines, donc au droit de leur propriété. Il y a eu beaucoup d'opérations intérieures qui ont été réalisées. À une époque, ce canal de Pierre-Latte, donc c'était des fioles en béton. On a commencé à plus ou moins à les donner pour s'en débarrasser. On ne savait pas très bien que faire. C'était situé entre des parcelles, au milieu de parcelles, et on n'avait pas les moyens d'aller les entretenir. Donc, à l'époque, donc, il y avait un prix qui avait été fixé. C'était pour le franc symbolique, puis après, on avait fixé un prix. Ce prix a été actualisé. Il était de 4 francs 22, donc ça faisait 0,65 euros hors taxe le mètre carré. Ça, c'était en 91. On l'avait modifié 2 ou 3 fois, et puis maintenant, on demande donc l'avis des domaines pour ces récupérations de terrain. Voilà. Donc, il vous est proposé donc de céder cette parcelle. Donc, monsieur et madame Pérez, pour un montant de 1 500 euros, et d'autoriser le maire à signer l'acte de cession ainsi que les pièces s'y rapportant, c'est-à-dire que les frais d'acte aussi sont à la charge des acquéreurs.
Y a-t-il des questions ou des observations? Aucune?
Je passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. 20e délibération, rétrocession amiable des parcelles cadastrées A1256 et A1257 chez les Aubépines dans le domaine séparatif du lotissement à Gardier à la commune. Monsieur le rapporteur Gérard Miséréré.
Merci, monsieur le maire. Le conseil municipal est appelé à délibérer sur le projet de la rétrocession amiable des parcelles cadastrées 1256 et A1257. Considérant que les parcelles cadastrées A1256 et A2257 sont situées en limite est du lotissement de la Gardie et sont à l'usage du chemin des Aubépines. Considérant que les parcelles impactées avec l'élargissement du chemin des Aubépines n'avaient pas fait l'objet d'acte de cession de la commune, vu le permis de lotir numéro, j'en passe, considérant que M. Thibault Alain, dans le cadre de la création du lotissement de la Gardie, afin d'en finir, en définir le plan de composition, a proposé à la commune de la cession à bien des parcelles cadastrées, donc une superficie de 52 centiards pour une et de 3 ar et 95 centiards pour l'autre. Considérant qu'un procès-verbal de bornage a été établi dans le cadre de la création du lotissement de la Gardie, le 15 juillet 2020, considérant que par leurs caractéristiques, leur usage et leur état, ces parcelles remplissent les conditions pour être possédées et classées dans le domaine privé communal. Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante d'engager la procédure de rétrocession de ces parcelles portant classement dans le domaine privé de la commune en acceptant la proposition de M. Thibault Alain, c'est-à-dire la cession amiable à l'euro symbolique à la commune des parcelles cadastrées 1256 et 1257 lui appartenant. Il lui sera aussi proposé à l'Assemblée délibérante d'autoriser M. le maire à signer l'acte de cession qui sera établi chez Maître Flandrin.
Y a-t-il des questions? Observations? Aucune? Je passe au vote.
Qui s'abstient? Qui compte? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. 21e délibération, donc c'est une délégation d'attribution. Y a-t-il des questions ou observations? Aucune. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Pensez à venir signer et pour soutenir les procurations et de signer pour les absents. Prenez soin de vous, très bon week-end et très bonne soirée.